Madame la ministre, messieurs, madame la directrice générale, monsieur le directeur général, madame le vice-chancelier, messieurs les présidents et présidentes d'université, chers collègues, directeurs d'école doctorale impliqués dans la formation doctorale, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à la faculté de pharmacie de l'université Paris-Descartes pour ces deux journées de colloque national sur le doctorat. Comme président de cette université, c'est pour moi un très grand plaisir de faire ça, puisque le doctorat est quelque chose qui est extraordinairement important et symbolique pour les universités. C'est le plus haut grade que décerne l'université française. Et c'est aussi un diplôme qui est connu dans le monde entier, qui est un étalon international de la formation et de l'excellence. Dans beaucoup de pays, le doctorat est quelque chose de très connu. On a parfois l'impression en France que, paradoxalement, le doctorat est quelque chose qui est moins reconnu qu'ailleurs, peut-être parce que nous avons des filières de formation différentes et que d'autres formations ont un peu l'avantage sur le doctorat. Alors, je voulais dire quelques mots ici très importants sur l'importance que je porte à titre personnel au doctorat, puisque je pense que c'est, à la différence d'autres formations, une véritable expérience professionnelle, une formation au raisonnement critique, une formation à la mise en perspective de tout ce qu'on a pu apprendre dans le reste de sa formation, et qu'il est très important que, à la fois, cet exercice que font les doctorants, que font leurs encadrants, soit reconnu à sa juste valeur, en particulier dans le contexte de leur insertion professionnelle future. C'est très important que notre pays accorde le mérite qu'il revient aux jeunes qui ont fait cet exercice et qui ont pratiqué, qui ont contribué au développement de la connaissance, mais qui en même temps ont acquis des compétences professionnelles tout à fait uniques, puisque c'est un appareil critique qu'on apprend à mettre en œuvre, c'est un raisonnement. C'est le fait de pouvoir exercer sa propre logique et son propre esprit d'analyse sur ce qu'on a pu vous mettre, ce qu'on a pu leur enseigner avant, et sur des sujets qui sont, dans la plupart des cas, des sujets nouveaux sur lesquels ils doivent défricher, dépendre de la connaissance. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Dans d'autres pays, lorsque vous allez en Angleterre ou en Allemagne, il y a un petit signe très simple, c'est que vous pouvez voir de la reconnaissance du doctorat, c'est que si vous échangez avec un collègue allemand, par exemple, sur sa carte de visite figureront tous ses titres universitaires. Et s'il est docteur, ce sera bien évidemment écrit dessus, même s'il n'exerce pas dans un contexte académique. Et s'il a eu deux thèses, il mettra même docteur, pour bien vous expliquer à quel point il est important et de savoir et de faire savoir qu'il a eu cette expérience et que cette formation est reconnue. En France, il est plus rare qu'en dehors des professions de santé, le titre de docteur soit donné à quelqu'un dans le monde professionnel, en dehors du monde académique. Voilà, donc je me réjouis de ces deux journées qui sont organisées aujourd'hui, qui sont précisément là pour mettre en perspective la formation doctorale dans le contexte de l'insertion professionnelle et dans ses liens avec l'entreprise, qui sont, à mon avis, quelque chose de très important pour valoriser cette continuité entre la formation universitaire et le monde professionnel. Et je vais céder la parole sans plus attendre à Madame la Ministre, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et qui va nous faire l'honneur d'ouvrir ce colloque. Madame la Ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos propos, Mesdames et Messieurs, chers doctorants. Bon, d'abord, puisqu'il me revient de m'exprimer, quelques mots pour vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous ce matin, puisque je crois que les attentes ici sont fortes et je veux vous dire qu'on les partage. Et que si ce colloque s'intéresse aux atouts que représentent les docteurs pour les entreprises, c'est précisément parce que ça n'est peut-être pas suffisamment reconnu aujourd'hui, en effet, et que nous estimons que nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre. Alors, moi, je repars d'abord d'un constat simple, sur lequel j'aimerais que ce colloque aussi nous aide à travailler. D'abord, l'insertion professionnelle des docteurs, elle s'est améliorée, notamment sur ces dernières années, puisque aujourd'hui la quasi-totalité des docteurs est en emploi 3 ans après sa thèse en France. Et en même temps, on peut raisonnablement se dire que cette insertion professionnelle, elle n'est pas assez rapide. Et on le voit bien, le taux de chômage des docteurs en France est 3 fois supérieur à celui qu'il connaît dans les pays de l'OCDE. Et les jeunes docteurs mettent en moyenne plus de temps que les diplômés de master pour s'insérer sur le marché du travail. Donc ça, c'est le constat. Les causes structurelles, on les connaît. D'abord, la structuration de la recherche en France, tout simplement, qui est très centrée sur le public et une part insuffisante de recherche et développement dans les entreprises françaises, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on sait à quel point le lien entre compétitivité et recherche et développement ne fait aucun doute. Du côté du gouvernement, il y a des efforts qui sont réalisés malgré la situation de nos finances publiques pour maintenir l'emploi au meilleur niveau possible, l'emploi scientifique, et encourager l'embauche des jeunes chercheurs dans les organismes. Mais pour autant, il ne faut surtout pas laisser penser que le doctorat ne pourrait conduire qu'à des carrières dans la recherche, et essentiellement dans la recherche publique. Et il faut surtout bien dire au contraire que la montée en gamme dont a besoin toute notre économie implique que ces docteurs, que cette recherche puisse bénéficier à tous les secteurs. Ensuite, la structure de l'économie française, je le disais, ne joue pas en faveur des doctorants, parce que c'est d'abord, quand on regarde du côté des entreprises, les grandes entreprises publiques ou privées, mais des grandes entreprises qui embauchent ces docteurs, là où, par exemple, en Allemagne, vous l'avez dit, on a un tissu beaucoup plus important d'entreprises de taille intermédiaire qui sont très tournées vers l'innovation et qui vont fournir des possibilités d'insertion beaucoup plus importantes aux jeunes docteurs. Et puis, il y a surtout des causes culturelles à cette situation, avec d'abord un enjeu de reconnaissance du doctorat dans la fonction publique. Et pourtant, on le sait, la fonction publique se devrait d'être exemplaire, et la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013 nous amener dans le bon sens. Il faut désormais qu'on fasse rentrer les textes en vigueur, puisque d'après cette loi, les docteurs peuvent bénéficier de passerelles pour passer le concours de l'ENA. La loi demande également au grand corps de l'État de ménager des voies de recrutement pour les docteurs. Donc nous sommes en train de mettre cela en œuvre. Ça, c'est pour le secteur public qui se doit d'être exemplaire. Et puis il y a le secteur privé. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises que mes équipes sont amenées à rencontrer ne savent même pas quelle est la part de doctorants qu'elles ont parmi leurs effectifs. Tout simplement parce que le doctorat n'est pas un critère pour pénétrer dans l'entreprise. Et le nombre de conventions collectives qui reconnaissent le doctorat comme un niveau de qualification propre est dérisoire, absolument dérisoire. Donc en réalité, les entreprises, plutôt qu'un docteur, vont préférer souvent recruter un ingénieur. Elles s'imaginent que l'ingénieur est plus directement opérationnel, qu'il aura acquis des compétences orientées directement sur le marché du travail, là où le docteur, lui, n'aurait que des compétences disciplinaires. Évidemment, tout ça, c'est méconnaître ce qui fait un docteur et ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Et je m'échine et je crois qu'il faut qu'on continue à expliquer, notamment, que si c'est des jeunes qui savent travailler en équipe que les entreprises recherchent, eh bien justement, les doctorants ont cette capacité à travailler aussi bien de façon autonome, seul face à une page blanche, qu'en équipe au sein des laboratoires, qu'ils savent précisément gérer un groupe, qu'enseigner, ça n'est pas seulement délivrer un savoir ou des connaissances, c'est aussi encadrer, animer un collectif. Et d'ailleurs, je le vois, moi, autour de moi, la plupart de mes recteurs, par exemple, sont des docteurs, professeurs d'université, et donc je le dis aux entreprises présentes, ils sont souvent de bons managers parce qu'ils ont précisément pris l'habitude de faire travailler des collectifs entre eux dans des laboratoires de recherche de façon collégiale. Le deuxième malentendu à lever, c'est que donc, les entreprises pensent chercher des jeunes salariés directement opérationnels et se demandent si c'est le cas des docteurs. Là aussi, il faut dire à quel point ils sont, ces docteurs, habitués à travailler de façon autonome, sans qu'on les tienne sans cesse par la main, qu'ils savent synthétiser, faire progresser un savoir et pas seulement le mettre en application. Bien sûr qu'ils doivent découvrir la culture spécifique de telle ou telle entreprise en arrivant, mais est-ce que ça n'est pas le cas de tout jeune qui commence de manière générale dans un nouveau poste? Et d'ailleurs, certaines entreprises ne s'y sont pas trompées, puisqu'elles ont mis en place des dispositifs spécifiques pour former les jeunes à leur arrivée à la vie de l'entreprise. Et puis enfin, les entreprises, il se trouve qu'elles cherchent de nouvelles recrues aux connaissances scientifiques solides. Et bien précisément, c'est de cela qu'on regorge avec ces doctorants, français ou étrangers d'ailleurs, qui sont venus faire leur thèse en France. Et moi, je suis assez frappée, j'ai la chance de remettre régulièrement des prix aux jeunes docteurs, donc les travaux se sont démarqués dans l'année. Je suis assez frappée par le haut niveau d'expertise, qualité des travaux, que ce soit sur la maladie de Parkinson, sur l'expertise juridique ultra pointue, sur la recherche spatiale. On regorge de talents dans ce pays et il faut le faire savoir. Alors maintenant, une fois cela dit, je pense qu'il faut aussi se préserver quand même de vouloir faire peser tous les maux sur les entreprises, parce que je crois que si elles ne recrutent pas davantage de docteurs, c'est aussi parce que elle ne l'identifie pas comme un besoin. Et c'est pourquoi il y a aussi un levier d'action que nous devons utiliser qui n'est pas recherché dans les seules entreprises. C'est aussi sans doute nous-mêmes qu'il faut savoir changer pour les convaincre ensuite. Il faut nous-mêmes changer notre regard sur l'entreprise. Au sein même de l'enseignement supérieur, on doit mieux connaître l'entreprise, mieux connaître les besoins du marché du travail, nouer des partenariats, rapprocher les doctorants de ces enjeux plus tôt dans leur cursus. On doit être capable, sans aucun doute, de dire mieux à un étudiant qui choisit de faire un doctorat quels sont les débouchés professionnels post-thèse possibles, quelles sont les perspectives d'insertion en fonction des disciplines. On doit pouvoir mieux accompagner, mieux suivre les docteurs après la validation de leur thèse, et aider ces jeunes docteurs à valoriser leurs compétences, à construire leurs projets professionnels. Et d'ailleurs, un certain nombre d'universités se sont déjà engagées dans ces démarches et je les salue. Je pense à Toulouse, par exemple, avec son école des docteurs qui a réussi à fédérer 15 écoles doctorales et qui accompagne les docteurs dans leur démarche de professionnalisation, de valorisation de leurs compétences. Il faut absolument étendre ce type de démarche. Et puis enfin, on doit aider évidemment les docteurs aussi à créer leur entreprise. C'est tout le rôle à la fois du statut d'étudiant entrepreneur que nous avons mis en place, mais aussi des pépites, les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui sont désormais présents dans tous les pôles universitaires et qui sont là pour accompagner, coacher même les étudiants dans leur projet de création d'entreprise. Dernier sujet peut-être dans cet accompagnement et ce suivi plus attentif, on doit aussi lutter contre les difficultés spécifiques que rencontrent les jeunes femmes pendant et après leur thèse. Parce qu'il n'est pas normal que ces jeunes femmes représentent 40% des maîtres de conférences, mais à peine 30% des professeurs d'université. Pas normal que une jeune femme qui choisit d'avoir un enfant se demande si elle va pénaliser ses chances de réussite ou être mal perçue ou avoir moins de possibilités d'insertion professionnelle. Et donc, oui, il faut que, là encore, on avance et qu'on organise la valorisation collective des docteurs parmi les docteurs eux-mêmes en les appelant, et c'est ce que je fais aujourd'hui en m'adressant à vous directement, aussi à développer les réseaux. Tout simplement parce que c'est ce qui suscite aussi beaucoup les opportunités professionnelles. Les opportunités, elles s'acquièrent à la fois parce que soi-même, dans le cadre de stages, dans le cadre d'expériences en entreprise, eh bien, on s'en ouvre, mais parce qu'on sait en faire profiter les autres. Vous êtes aujourd'hui plus de 10 000 chaque année à valider votre thèse. C'est peut-être trop peu par rapport à d'autres pays, mais ça reste un nombre important pour réussir à vous organiser en réseau. Et donc, aider les autres à mettre le pied à l'étrier aussi, comme le font un certain nombre, je crois, de grandes écoles. Nul besoin de vous donner d'exemple. Voilà les quelques sujets que je voulais aborder. Et puis après, il y a les partenariats que nous passons avec un certain nombre de grandes entreprises. Je pense à Schneider, je pense aux branches professionnelles comme l'UIMM, avec lesquelles nous conventionnons aussi pour valoriser ces docteurs et faire en sorte que les opportunités professionnelles soient plus nombreuses. Mais peut-être un dernier mot pour vous dire ce qu'on attend de ce colloque aujourd'hui, puisque à moyen terme, il y a aussi des avancées auxquelles il faut qu'on réfléchisse ensemble, qui demandent cependant un peu de temps pour les faire de façon intelligente et pérenne. Est-ce qu'il faut élargir l'accès à la thèse à la condition de garantie qualitative très stricte, par exemple ? Peut-être. En tout cas, la réflexion qu'on conduit en ce moment devra, dans tous les cas, permettre de réaffirmer le doctorat comme le diplôme de plus haut niveau de l'enseignement supérieur. Mais il y a cette question-là. Est-ce qu'on peut renforcer l'ouverture du doctorat à l'international, favoriser les thèses en co-tutelle ? Enfin, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la concertation est aujourd'hui engagée. Et je souhaite vraiment que ce colloque soit une étape de cette concertation avec les éclairages que vous nous apporterez. Donc merci par avance de votre contribution. Et vous savez, c'est un changement culturel, un changement structurel qu'il nous faut aujourd'hui obtenir. Je pense que les universités, les doctorants, les entreprises peuvent y arriver à nos côtés si nous partageons bien les mêmes motivations. Valorisons nos docteurs. Merci beaucoup.
Madame la ministre, madame la directrice générale, monsieur le directeur général, chers collègues, nous avons l'honneur de recevoir ce matin monsieur Tyson, directeur faisant fonction pour la direction de la modernisation de l'éducation à la Commission européenne, représentant monsieur Pratt-Monnet, directeur général d'éducation de la Commission européenne. Monsieur Tyson.
Merci beaucoup. Madame la ministre, madame le directeur général, monsieur le directeur général, et j'oublie tous les autres titres français que le président a annoncé, donc excusez-moi pour ça, si je me limite à dire mesdames et messieurs. Je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui, et aussi de voir tant de représentants de grandes entreprises françaises ici dans la salle, parce que le thème de la relation entre la formation doctorale et le monde des entreprises devient de plus en plus important et de plus en plus central, y compris au niveau européen. Quand les ministres de l'Éducation ont adopté déjà en 2011 la stratégie de l'Union pour la modernisation de l'enseignement supérieur, ils ont accepté la recommandation de la Commission européenne de favoriser la création de partenariats durables entre les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche pour adapter l'enseignement supérieur aux besoins du marché du travail. Et cela à tous les trois cycles de l'enseignement supérieur. Et la France, comme on a entendu de Madame la Ministre, la France a pris cet appel au sérieux. On a tous entendu peut-être, et ça dans presque tous les pays, les plaintes des employeurs sur le décalage qu'il y a entre les compétences des diplômés et ce dont ils ont besoin dans leurs entreprises. Ce sont parfois des plaintes exagérées peut-être et qui ont souvent tendance à négliger la part de responsabilité des entreprises dans la formation des travailleurs eux-mêmes, mais elles révèlent aussi une vérité importante en ce qui concerne l'employabilité de ces jeunes diplômés. À tous les niveaux de l'enseignement supérieur, il y a une nécessité urgente et constante d'adapter l'apprentissage à l'évolution rapide du marché du travail. Et c'est peut-être encore plus vrai en ce qui concerne les diplômés qui travaillent à la frontière toujours changeante des connaissances actuelles. Selon nos estimations à la Commission européenne, l'Europe a besoin d'un million de jeunes et de moins jeunes en plus qui décideraient de commencer ou de poursuivre une carrière de recherche. Et ce n'est pas non plus une question de n'importe quel chercheur. Nous avons besoin de chercheurs qui savent apporter leurs idées au marché. Le défi pour les instituts de formation doctorale est donc de former la prochaine génération d'excellents chercheurs qui ont à la fois la capacité de recherche fondamentale et indépendante, et l'esprit entrepreneurial, et les compétences, et la volonté de développer leur carrière tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du milieu universitaire. On a entendu ça déjà de la ministre. Le nombre de nouveaux diplômés au niveau doctoral a considérablement augmenté en Europe au cours de la dernière décennie. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas vu de changement fondamental, mis à part quelques expériences ici et là, dans la façon traditionnelle de former les doctorants. Il reste encore trop souvent un accent sur les spécialisations étroites et sur la préparation des chercheurs principalement à des carrières universitaires. Beaucoup de ces jeunes chercheurs ne sont même pas conscients de la vaste gamme de carrières qui s'ouvre devant eux une fois qu'ils ont obtenu leur doctorat. Et ceci est plus que malheureux. Le passage à une économie de connaissances dont on parle en Europe depuis au moins 15 ou 20 ans implique une demande croissante pour les travailleurs les plus qualifiés. Les entreprises exigent de plus en plus que le personnel dispose d'une solide formation académique et en même temps qu'il soit capable de traduire ses connaissances en produits ou services. Et puisque la créativité et l'innovation trouvent leurs origines très souvent dans les connaissances avancées et dans l'interdisciplinaire, la compétitivité de l'Europe dépend dans une large mesure de la qualité de la formation doctorale. Cet aspect est primordial parce que l'Europe a une proportion de chercheurs employés dans le secteur privé relativement faible, à 45%, comparé aux États-Unis à 78%, au Japon à 74%, ou même à la Chine, où le chiffre est à 62%. La formation des travailleurs, des chercheurs, doit donc se baser non seulement sur l'excellence scientifique de la recherche, mais également sur l'acquisition de compétences transférables telles que l'entrepreneuriat, qui augmente l'employabilité des chercheurs, quel que soit leur choix de carrière ou de parcours professionnel. La coopération internationale dans la recherche, promotrice d'excellence, ainsi que la participation accrue des entreprises en tant que partenaires et futurs employeurs sont donc essentielles. Et c'est ce qui est exigé par les principes européens pour une formation doctorale innovante, que vous connaissez tous sans doute, et qui a été adopté par les États membres en 2011. La mise en œuvre de ces principes à travers toute l'Europe est primordiale. Bien sûr que la responsabilité pour cela reste avec les universités et les organismes de recherche eux-mêmes. La Commission, pour les soutenir, coopère avec les gouvernements nationaux et a proposé un certain nombre de recommandations, ainsi qu'un guide destiné à aider les directeurs de recherche en leur offrant des exemples de bonnes pratiques. Et ce guide devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Mais vous avez vu aussi qu'il y a une nouvelle commission à Bruxelles, avec de nouveaux mandats pour ses membres, avec des nouveaux choix politiques aussi. Le président Juncker a demandé au commissaire Navracsics, responsable de l'éducation et de la formation, de renforcer le triangle de la connaissance entre l'éducation, l'entreprise et la recherche. Et dans le cadre du programme Horizon 2020, deux outils renouvelés permettent le rapprochement de ces trois composantes dans le contexte de la formation doctorale. Les actions Marie Skłodowska-Curie et l'Institut européen d'innovation et de technologie. Les actions Marie Curie visent l'excellence dans la recherche, la mobilité internationale et une employabilité renforcée des chercheurs. En soutenant 65 000 chercheurs, dont 25 000 doctorants d'ici la fin de la décennie, les actions Marie Curie établissent des standards en termes de formation pour les carrières de chercheurs en Europe. Ces actions permettent aux chercheurs de parfaire leur formation à l'étranger, non seulement au sein de l'Union, mais aussi ailleurs dans le monde, et la participation du secteur non académique est particulièrement encouragée. Le programme aide donc les chercheurs à élargir leur horizon afin de leur offrir des opportunités de carrière accrues avec une valeur ajoutée pour l'Europe. L'année dernière, les actions Marie Curie ont consacré 405 millions d'euros à la création de nouveaux réseaux de formation innovante qui financent les programmes de niveau doctorat à travers le recrutement de chercheurs débutants. Comme les années précédentes, la compétition a été relevée. Nous n'avons pu financer que 11% des propositions reçues, tellement la demande était élevée. Toutefois, nous étions très contents que 40% des organisations qui ont été soutenues appartiennent au secteur non académique, dont 600 entreprises. La France a obtenu de bons résultats lors du dernier appel à propositions. Par ailleurs, sur les 130 organisations françaises qui seront financées, 50 sont des entreprises ou d'autres organisations non académiques. Cela est déjà encourageant. Cette action possède aussi une composante spécifique nommée doctorat industriel européen, qui permet aux chercheurs de passer la moitié de leur temps en entreprise, comme le système national décrit par le ministre. Et sur les 77 doctorats industriels en cours, 9 comportent un partenaire français, même s'il n'y a pas de projet strictement français mené par une organisation française. Et il y a aussi 5 entreprises françaises impliquées. Donc, c'est déjà une bonne base pour l'avenir. Mais les actions Marie Curie veulent non seulement promouvoir l'excellence dans la recherche elle-même, mais aussi avoir un impact sur l'environnement du travail des chercheurs pour rendre la profession plus attractive. Et c'est pourquoi elles promeuvent également les conditions de travail et d'emploi de qualité, en ligne avec les principes de la Charte européenne pour les chercheurs et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, avec des critères stricts d'éligibilité. Enfin, les actions Marie Curie se veulent un modèle aussi pour la promotion de la parité dans la recherche. Presque 40% des chercheurs Marie Curie sont des femmes, ce qui représente une proportion nettement supérieure à la moyenne européenne. Je me tourne maintenant vers l'autre composante d'Horizon 2020, l'Institut européen pour l'innovation et la technologie, l'EIT, qui soutient également les formations doctorales innovantes. L'EIT s'appuie sur les communautés de la connaissance et de l'innovation, les KICS dans l'acronyme anglais, des consortia d'universités, de centres de recherche et d'entreprises intégrés dans des partenariats de type entrepreneurial. Et l'EIT et les KICS investissent dans le capital humain en créant de nouveaux programmes et en transmettant les valeurs de l'entrepreneuriat aux étudiants et aux chercheurs et en faisant en sorte que l'éducation soit plus en phase avec les besoins des entreprises et de la société. L'EIT est vraiment le leader dans la création de nouveaux diplômes de master et de doctorant qui combinent l'excellence et l'entrepreneuriat. Ces programmes offrent la possibilité d'effectuer des stages dans l'industrie et d'apprendre aux côtés d'entrepreneurs et de professionnels des secteurs concernés. Les résultats des 3 premiers KICS, Climate KICK, KICK Inno Energy et ICT Labs, montrent que le potentiel de l'EIT a contribué à l'avancement de l'innovation en Europe. A contribué à l'avancement de l'innovation en Europe. Point. Ensemble, ces KICS ont intégré plus de 480 partenaires, dont plus d'une centaine d'organisations françaises, au sein de 19 centres d'innovation à travers toute l'Europe. Ils ont attiré des milliers d'étudiants dans le programme d'éducation, avec déjà plus de 600 diplômés. Ils ont créé presque 200 start-up innovantes, incubé plus de 750 idées d'entreprise et lancé 150 produits et services, soit nouveaux, soit améliorés. Et les 2 nouvelles KICS, EIT Health, dans le domaine de la santé, et EIT Raw Materials, je ne sais pas comment on dit ça en français, ont déjà mobilisé plus de 200 partenaires, dont 22 Français, venant de 20 États membres. Et l'EIT va encore développer son offre en couvrant 3 secteurs supplémentaires, chaîne d'approvisionnement alimentaire durable, produits manufacturés à haute valeur ajoutée et mobilité urbaine. Encore des opportunités donc pour des établissements français. Ce colloque aujourd'hui et demain n'est ni le début ni la fin du débat sur la formation doctorale. La Commission compte continuer la discussion à une conférence internationale sur le futur du doctorat organisée fin mai à Riga en Lettonie, qui est à la présidence du Conseil des ministres européens en ce moment. Cette conférence sera l'occasion de réfléchir sur les pratiques et les modèles possibles à suivre en termes de formation doctorale en Europe, en regardant également ce qui se passe ailleurs dans le monde. L'inscription en ligne est déjà ouverte. Et durant cette conférence-là, comme aujourd'hui et demain, j'imagine, nous espérons aborder entre autres les questions suivantes. Quel devrait être le juste équilibre entre la création de savoir et les objectifs économiques et sociaux de la recherche? Comment combiner le besoin de spécialisation scientifique du chercheur doctorant et la nécessité d'acquérir des compétences plus transversales visant à améliorer son employabilité? Comment s'assurer que les futurs docteurs auraient reçu une formation adaptée à l'environnement de la recherche en pleine mutation, notamment face à la pénurie des postes académiques? Et qu'est-ce que cela signifie en termes de conséquences d'adaptation pour les systèmes d'enseignement supérieur dans la totalité? Le rôle de l'Union européenne est d'appuyer, de soutenir les actions des autorités nationales et des établissements d'enseignement supérieur en finançant des actions innovantes, bien sûr, mais aussi en créant, en ouvrant un espace de dialogue et d'échange entre les parties prenantes des différents pays. Je vous invite donc à participer activement au débat sur les doctorats au XXIe siècle, à la fois ici aujourd'hui et aussi à Riga, car c'est par le dialogue que nous parviendrons à construire des programmes européens en phase avec les besoins des générations futures de chercheurs et avec la capacité compétitive de l'Europe. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Didier Roux, je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis le directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain. J'ai une carrière mixte entre le monde de la recherche fondamentale et le monde de l'entreprise. J'ai été pendant longtemps directeur de recherche au CNRS dans le monde de la physico-chimie. J'ai dirigé un laboratoire propre à Bordeaux. J'ai créé deux startups dans les années 90, donc j'ai aussi une petite expérience de la vie d'entrepreneur. Et depuis 2005, je suis donc le responsable de la recherche d'un grand groupe international, Saint-Gobain, qui a l'honneur de fêter cette année ses 350 ans et qui a la fierté d'être parmi les 100 entreprises les plus innovantes du monde dans le classement de Reuters et Thomson. Voilà. Alors, j'ai un certain nombre de messages à vous faire passer. Désolé de ne pas pouvoir répondre à vos questions, mais vous pouvez me contacter, vous trouverez mes coordonnées facilement. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur la recherche en entreprise et un peu une spécificité française qui est connue comme étant un peu spéciale, qui est le fait qu'en France, les entreprises ont longtemps, et continuent même si c'est de moins en moins, de recruter dans le monde de la recherche, donc je parle de la recherche industrielle, de la recherche d'entreprise, des gens qui sont ingénieurs, mais qui n'ont pas forcément de thèse. Alors c'est un peu spécial, puisque dans tous les autres pays du monde, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, la très grande majorité des chercheurs qui rentrent en entreprise, donc dans des centres de recherche d'entreprise, ont bien évidemment un PhD, et sont de ce point de vue-là formés au travail de la recherche par ce moment très exceptionnel et très important dans la vie qui consiste à faire un travail de thèse dans un laboratoire de recherche publique. Cette spécificité, elle vient historiquement du fait que nous avons un système qui coexiste entre des écoles d'ingénieurs et le monde universitaire et que le monde de l'entreprise comprend, à la fois parce que beaucoup de ses dirigeants en sont issus, très bien le monde des ingénieurs et un peu moins le monde de l'université. Et c'est un peu embêtant parce que ça ne correspond pas à la réalité des choses. Alors, en fait, dans le cas de Saint-Gobain, les choses ont beaucoup bougé, à la fois lancées par mon prédécesseur, Jean-Claude Lehmann, et moi-même. On a recruté et on continue à recruter, principalement dans nos grands centres de recherche en France, des gens qui ont une thèse. Dans le cas du centre de recherche d'Aubervilliers, je crois qu'on doit être à 85 ou 87% des chercheurs qui ont une thèse, et ça correspond bien à la volonté que nous en avons. Pour l'étranger, j'en parle pas, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quasiment un automatisme, et bien évidemment, dans ce cas-là, tous les gens qui sont amenés à faire du travail de recherche industrielle ont une thèse dans la plupart des cas. Alors, la raison pour laquelle nous pensons, et nous le faisons, que la thèse est très importante pour faire de la recherche industrielle, c'est parce que la formation par la recherche, de nouveau en faisant une thèse dans un laboratoire public, est une formation exceptionnelle. C'est une formation qui, pendant une période généralement qui tourne au bout de 3-4 ans, si on compte l'année de Master 2, permet de, tout en ayant un niveau international très élevé et avec des exigences au plus haut niveau de découverte dans les meilleurs laboratoires, permet une autonomie de décision, une autonomie de gestion dans un encadrement qui, par ailleurs, dans le meilleur des cas, permet à cette autonomie de s'organiser et de se former. Et si on compare, dans le cas d'un grand groupe, quand un chercheur pourra retrouver cette autonomie, c'est très souvent longtemps, longtemps après qu'il soit rentré. Quand je dis longtemps, c'est quelques années, 5 ou 6 ans. Le fait de l'avoir vécu en thèse, cette autonomie, lui donne dès le départ une idée de ce que c'est que la recherche, et de ce point de vue-là, il n'y a pas grande différence entre la recherche industrielle et la recherche fondamentale, et lui permet d'être à la fois opérationnel et de prendre de la distance de façon importante par rapport aux sujets qu'il a à traiter, même si ces sujets, comme c'est souvent le cas, ne sont pas directement reliés à son travail de thèse. Voilà, donc cette formation par la recherche est absolument essentielle, y compris et surtout dans le monde industriel. Et donc, nous considérons que c'est un atout, et c'est une force, et c'est une nécessité, y compris dans le monde industriel, d'avoir des gens qui ont une thèse. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser un certain nombre de questions. Parmi ces questions, une thèse, est-ce que ça doit former pour toujours au sujet sur lequel on a travaillé et qu'on aura une carrière qui suivra directement. Comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans le monde public, dans la recherche publique, même si ce n'est pas une généralité, une grande partie des gens continuent à travailler 10, 15, 20 ans après sur des sujets dont on peut retrouver la racine au niveau de leur thèse. Et ce n'est pas d'ailleurs plus mal comme ça, parce que ce sont des travaux qui demandent énormément d'investissement. Dans la recherche d'entreprise, dans la recherche privée, il est clair que les sujets abordés sont beaucoup plus diversifiés et qu'un chercheur, même s'il fera de la recherche pendant 10-15 ans, sera amené à changer de sujet, de domaine plus fréquemment que dans le monde public. Mais sa formation initiale le prédisposera à le faire dans des conditions d'efficacité et de compréhension qui sont bien plus grandes que s'il n'avait pas eu l'occasion de faire ce travail initial. Alors, toutes ces raisons font que cette thèse prédispose aux relations entre la recherche fondamentale et la recherche publique. Donc, un des autres avantages d'avoir des gens qui ont été formés à la recherche publique, c'est d'avoir des gens qui ensuite sont capables de trouver les compétences, sont capables de trouver les partenaires qu'il faut à cette recherche en entreprise pour pouvoir ensuite construire le futur sur une base de connaissances et de compétences issues du fondamental. Donc là encore, c'est un atout extrêmement important d'avoir des gens qui connaissent la recherche publique, qui connaissent la recherche internationale, de façon à aller ensuite trouver les compétences qu'il faudra plus tard pour faire évoluer les produits ou les procédés des entreprises. Alors, je voudrais aussi aborder un autre sujet qui est un peu plus délicat, qui est celui des domaines non scientifiques. Nous sommes une entreprise qui fabriquons essentiellement des matériaux. Nous sommes dans des domaines technologiques, donc nous employons beaucoup de gens qui sont issus de la physique, de la physico-chimie, un peu de la chimie, mais ce sont des sciences dures, des sciences qui sont considérées comme des sciences historiquement différentes des sciences humaines et sociales. Pour autant, nous éprouvons le besoin, et nous l'avons fait dans le cadre de mon équipe à la direction de la recherche de Saint-Gobain, d'être de plus en plus ouverts sur des sciences qui ne sont pas dures, qui sont des sciences humaines et sociales. Et ces sciences humaines et sociales apportent, en complément de sciences comme la physique, un éclairage qui est extrêmement important dans le développement d'innovations d'aujourd'hui. Alors, je vais vous citer un exemple. Nous fabriquons des matériaux, mais nous sommes essentiellement axés sur le domaine de l'habitat, donc de la construction de bâtiments, que ce soit des bâtiments où on travaille ou des bâtiments où l'on vit. Et il y a une notion extrêmement importante dans les bâtiments, qui est la notion de confort. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous habitons ou nous travaillons dans un bâtiment, c'est pour nous protéger d'un climat extérieur qui est rude et qui nous met dans une situation où nous sommes plus confortablement installés dans un bâtiment qu'à l'extérieur. Sinon, nous serions bien évidemment à l'extérieur. Donc ce bâtiment, il doit apporter le confort à son utilisateur. Et cette notion de confort n'est pas une simple notion que l'on peut baser sur de la physique ou de la chimie ou de la physico-chimie. C'est une notion qui est évidemment intrinsèquement liée à ce que l'on ressent. Et donc, il y a un couplage entre les gens, la réaction humaine, donc des choses qui ne sont pas décrites par de la physique et même difficilement par de la biologie, et la réalité de l'environnement physique et chimique qui nous entoure. Et ce lien-là, on ne peut pas le faire uniquement avec des gens qui ont une formation de physique et chimie. Et nous avons recruté, nous sommes en train de constituer une petite équipe de gens qui sont... alors la première était une historienne, de façon un peu bizarre. Alors il s'avère qu'elle s'était intéressée à l'histoire des villes, à l'histoire du bâtiment. Donc elle avait un intérêt pour ce genre de sujet. Et nous sommes en train de recruter un sociologue. Et nous essayons de comprendre un peu mieux comment ces gens-là peuvent nous apporter, qui ont bien évidemment tous les deux une thèse, nous apporter une vision complémentaire d'une vision purement scientifique de sciences dures. Voilà, donc même si, bien évidemment, en proportion, il y a une très grande majorité de gens qui ont fait des thèses en physique, en chimie ou en physico-chimie, nous voyons et nous sentons qu'il y a aussi un intérêt pour d'autres domaines scientifiques dans notre entreprise. Donc, c'est un message fort que j'ai envie de vous faire passer, que la formation par la recherche est une formation extrêmement importante pour l'entreprise, et y compris dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines purement de sciences dures. Alors, je voudrais un peu élargir mon propos maintenant entre la collaboration entre le public et le privé. Bien évidemment, la thèse est une formation, bien que je considère qu'un thésard soit avant tout un professionnel, hein, c'est un début de profession, même si l'encadrement est important. Et bien ensuite, son premier travail, ça sera une thèse, mais ensuite, il rentrera dans le monde du public ou dans le monde de l'entreprise et sera intégré, et bien évidemment, à son environnement. Alors, évidemment, il y a un très fort intérêt à ce que le monde du public et le monde du privé travaillent ensemble. C'est reconnu par tous. Moi, j'ai débuté ma carrière de chercheur comme CNRS où il était honteux d'avoir des relations avec des entreprises. Les choses ont bien changé de façon extrêmement positive depuis quelque temps. Et je voudrais essayer de tracer quelques éléments intéressants vus de l'entreprise. Alors d'abord, je crois qu'il faut admettre que la France a un dispositif assez exceptionnel et s'est doté de moyens assez originaux pour travailler entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche publique. Ce n'est pas suffisamment dit, bien que ce soit connu. Je voudrais parler à la fois des laboratoires mixtes constitués entre les entreprises et le CNRS, qui sont des laboratoires d'exception quand ils sont bien gérés. Alors j'ai souvent l'occasion de décrire ça comme des laboratoires Janus. C'est-à-dire qu'un laboratoire mixte CNRS-entreprise, c'est un laboratoire qui, vu par le monde universitaire, doit être considéré comme un laboratoire fondamental, avec les mêmes critères de jugement que tous les autres, et d'évaluation que tous les autres laboratoires fondamentaux. Mais vu de l'entreprise, ça doit être une réservoir de compétences, d'exploratoires et d'idées pour le futur, qui alimente, bien évidemment en amont, la possibilité d'innover dans ce monde de fabrication de produits ou de systèmes qui seront mis en vente à un moment donné. Et donc ce côté Janus, c'est-à-dire que selon la façon dont on le regarde, on ne voit pas la même chose, au sein même de cette organisation qui est un laboratoire mixte, est une richesse absolument exceptionnelle. Il en existe beaucoup en France. Nous en avons trois avec le CNRS, deux en France et un au Japon. On a créé un laboratoire mixte au Japon avec le CNRS récemment. Et je voudrais insister sur l'originalité de ces outils-là. Nous avons aussi un dispositif qui est très important puisqu'on parle de la thèse, on parle de la formation de doctorat. C'est l'ensemble des bourses qui existent, qu'on appelle bourses, mais qui sont en fait des salaires, qui correspond à le financement de thèses mixte entre le monde de l'entreprise et le monde public, c'est-à-dire que ce soit les bourses CIF ou les bourses de docteurs ingénieurs, donc tout un dispositif en France qui est tout à fait exceptionnel, qui permet aux entreprises de cofinancer dans des conditions confortables des travaux de thèse dans des laboratoires fondamentaux qui produisent des résultats de recherche fondamentale, mais en même temps sur des sujets qui intéressent le monde de l'entreprise. Donc là encore, ce sont des outils dont il faut reconnaître l'originalité et la force. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça existe dans quelques autres pays, mais la France a su développer ça à une échelle importante. Parmi ces grands avantages qui ont aidé, je voudrais aussi citer, et c'est un monde que je connais bien puisque j'ai pu créer dans ma carrière deux start-up dans les années 90, le lien qui existe aujourd'hui et qui est un panorama complètement différent de celui d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui permet de créer des start-up à partir de résultats de recherche dans le monde universitaire. On est aujourd'hui probablement un pays où c'est le plus facile et le plus confortable de créer des start-up, après avoir probablement été un peu en retard dans les années 80-90. Nous sommes maintenant plutôt en avance, alors avec des problèmes qui sont le suivi de ces start-up, leur vie après les quelques années où elles sont fortement choyées et où elles tombent ensuite dans la vraie vie et où les choses peuvent être un peu plus difficiles. Donc il y a un problème de développement. Mais derrière ce problème de développement, il ne faut pas cacher le fait qu'aujourd'hui, le monde des start-up en France est un monde extrêmement dynamique, extrêmement vivace. Et nous avons mis à Saint-Gobain au point une petite structure d'interface qu'on appelle Nova, dont l'objectif est de travailler avec ces startups. D'ailleurs, nous avons ouvert cette année un concours à Shanghai, un concours mondial pour les 350 ans de Saint-Gobain, de startups autour du monde de l'habitat, dans lequel nous allons primer les meilleures startups du monde qui nous intéressent le plus. On en reparlera au mois d'octobre quand l'exposition des pavillons de Saint-Gobain sera à Paris. Mais avant tout, c'est un intérêt très fort que nous avons aussi pour ce monde des jeunes pousses qui amènent des technologies et des idées nouvelles, y compris dans notre domaine industriel. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est de réfléchir aux carrières auxquelles mènent des gens qui ont débuté une formation par la recherche. Dans le monde de l'entreprise, et en tout cas dans le cas de Saint-Gobain, juste pour vous situer, on a environ 3700 personnes dans le monde de la recherche, dont 1400 chercheurs. Le métier historique de chercheur est un métier qui est un passage très souvent dans la carrière, qui permet de faire et de travailler sur l'innovation pendant une dizaine d'années, typiquement entre 5 et 15 ans, et ensuite, très souvent, quelqu'un qui est rentré dans son entreprise par le monde de la recherche continue sa carrière sur d'autres domaines, très souvent dans le monde de la production ou du marketing, du management. Toutes les carrières de Saint-Gobain lui sont ouvertes. L'expérience montre que quelqu'un qui a été formé par la recherche est en fait capable, à condition d'en avoir les talents et l'envie, de s'adapter pratiquement à tous les métiers industriels et pas seulement à celui de chercheur. Donc c'est un point extrêmement important de comprendre que la recherche est un point d'entrée dans le monde de l'industrie, mais que la diversité des carrières qui sont proposées à quelqu'un qui rentre dans le monde de la recherche est beaucoup plus vaste que le monde de la recherche. Et quand je dis plus vaste, je dis infiniment plus vaste. J'ai eu l'habitude d'expliquer à mes étudiants que le monde de la recherche est un monde qui, je parle de la recherche fondamentale, de la recherche publique, est un monde qui est assez monolithique au niveau des compétences, qui est peu diversifié au niveau des carrières et malheureusement pour beaucoup assez frustrant au niveau des résultats. Le monde de l'entreprise, au contraire, est un monde incroyablement plus diversifié et qui offre l'utilisation de beaucoup plus des talents des personnes sur un panel qui est beaucoup plus vaste que celui du monde de la recherche fondamentale. Voilà, c'est un peu comme, si vous voulez, le sport de haut niveau et puis faire du sport. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et évidemment, on peut bien faire du sport sans forcément être au niveau d'un champion olympique. C'est un point important parce que je crois que les jeunes qui se posent des questions sur leur carrière doivent être rassurés sur le fait que la seule carrière possible n'est pas la recherche fondamentale dans un laboratoire public de haut niveau qui leur permettra d'accéder à la reconnaissance internationale dont ils peuvent rêver. Ce n'est pas le seul débouché, évidemment, d'une thèse. Je voudrais sur ces mots et cet encouragement à cette formation conclure. Je suis très conscient du fait que n'étant pas là, je ne pourrais pas répondre à vos questions, mais une fois de plus, je suis tout à fait prêt à interagir avec vous par email ou par de façon